Chapitre 10. Avril 1975. Le vieil homme était à mi-chemin de l'allée traversant le terrain. Quand Dave Klingerman s'approcha, il lui fit un grand sourire. Les aboiements frénétiques s'élevant de partout ne semblaient pas le gêner le moins du monde, non plus que les odeurs de fourrure et d'urine, les jappements des centaines de chiens perdus qui hurlaient dans leur cage, se jetaient d'un bord à l'autre et sautaient sur le grillage. Klingerman étiqueta tout de suite le vieux comme un fada des chiens. Mais son sourire était agréable, plein de douceur. Il tendit prudemment une main gonflée et recroquevillée par l'arthrite, et Dave la lui serra dans le même esprit.
« Hello, sir, » dit-il en élevant la voix. « Quel bruit d'enfer, n'est-ce pas ?»«
Cela ne me gêne pas, » dit le vieil homme. « Pas du tout. Je m'appelle Arthur Denker. »
« Klingerman, Dave Klingerman. »
« Je suis heureux de vous voir, monsieur. J'ai lu dans le journal, je n'arrivais pas à y croire, qu'ici vous donnez des chiens. J'ai peut-être mal compris. » En fait, je crois que j'ai du mal comprendre.
Non, nous les donnons, c'est vrai. Sinon, nous devons les supprimer. 60 jours, voilà ce que l'État nous accorde. Une honte. Venez là-bas, dans le bureau. C'est plus calme. Ça sent moins mauvais aussi.
À l'intérieur, Dave dut écouter une histoire archi-connue, mais néanmoins émouvante. Arthur Denker avait dépassé les 70 ans. Il était venu en Californie quand sa femme était morte. Il n'était pas riche, mais il prenait grand soin de ce qu'il possédait. Il était seul, avec pour seul ami le gamin qui venait quelquefois le voir et lui faire la lecture. En Allemagne, il avait eu un très beau Saint-Bernard. Ici, à Santo Donato, il y avait une cour de bonne taille derrière sa maison, avec un grillage autour. Et il avait lu dans le journal... Serait-il possible qu'il puisse...
« Eh bien, nous n'avons aucun Saint-Bernard, » dit Klingerman. « Ils partent très vite parce qu'ils conviennent tellement bien aux enfants. »«
Oh, je comprends. Je ne voulais pas dire... »«
Mais j'ai effectivement un chien de berger à moitié adulte. Cela vous irait-il ?»
Les yeux de M. Denker se mirent à briller comme s'il était au bord des larmes.
« Parfait, » dit-il. « Ce serait parfait. »
Le chien lui-même est gratuit, mais il y a quelques frais annexes. Vaccin contre la rage et la maladie de Carré, licence municipale. Le tout revient environ à $25 pour la plupart des gens, mais l'État en paye la moitié si vous avez plus de 65 ans, d'après le plan Âge d'or de la Californie.
L'âge d'or, serait-ce mon âge ?
Dit M. Denker en riant. L'espace d'un instant, bêtement, Klingerman sentit une sorte de frisson.
« Il semblerait, monsieur. »«
C'est très raisonnable. »«
Bien sûr, c'est aussi notre avis. Le même chien vous coûterait $125 dans un chenil. Mais les gens préfèrent aller là-bas au lieu d'ici. Ils payent pour un tas de papier, évidemment, pas pour le chien. »
Dave secoua la tête.
« Si seulement ils savaient combien de belles bêtes sont abandonnées tous les ans. » Et si vous ne pouvez pas leur trouver un foyer adéquat dans les 60 jours, vous les supprimez.
Nous les endormons, oui.
Vous les quoi? Je suis désolé, mon anglais.
C'est une ordonnance municipale. Impossible d'avoir des meutes de chiens courant dans les rues.
Vous les abattez?
Non, nous les gazons. C'est très humain, ils ne sentent rien.
Oui, dit M. Denker. J'en suis persuadé.
En algèbre, Todd était assis au quatrième rang de la seconde rangée. Il essaya de rester impassible quand M. Storman rendit les interrogations. Mais ses ongles déchiquetés creusaient de nouveau ses paumes, tandis qu'une sueur acide semblait lui couler lentement de toutes les parties du corps.
Ne te laisse pas aller à espérer. Ne perds pas la boule à ce point-là. Tu n'as aucune chance d'avoir réussi. Tu sais que tu n'as pas réussi.
Pourtant, il n'arrivait pas à refouler entièrement son espoir imbécile. C'était le premier examen d'algèbre depuis des semaines qui n'avait pas eu l'air d'être écrit tout entier en grec. À cause de sa nervosité... Nervosité, non, appelons les choses par leur nom. Une terreur panique.
il s'était plutôt mal débrouillé. Mais peut-être, enfin, si cela avait été n'importe qui d'autre que Stormman, qui avait un cœur de pierre.
Arrête ça !
Pendant un instant horrible et glacé, il fut certain d'avoir crié ces deux mots à voix haute et en pleine classe.
Tu as merdé, tu le sais. Rien n'y fera, rien au monde.
Stormman, indifférent, lui tendit sa copie et passa au suivant. Todd la posa à l'envers sur son pupitre tailladé d'initiales. Il crut un moment qu'il n'aurait pas la volonté de retourner la feuille pour regarder. Finalement, il le fit d'un geste si convulsif que le papier se déchira. Sa langue, au moment de lire, se colla à son palais, et son cœur sembla s'arrêter. En haut de la feuille, entouré d'un cercle, il y avait un nombre. 83. En dessous, une lettre. Un C. Encore en dessous, un bref commentaire.
« Grand progrès. Je crois être deux fois plus soulagé que toi. Étudie soigneusement tes erreurs. Trois au moins sont plutôt des erreurs de calcul que des défauts de raisonnement. »
Son cœur se remit à battre, trois fois plus vite. Il se sentit submergé par un sentiment de soulagement, mais sans être calmé. Une chaleur étrange, complexe. Il ferma les yeux, n'entendant rien du bourdonnement des élèves devant leur copie, des bagarres prévues d'avance pour grappiller un point ici et là. Derrière ses yeux, Todd voyait du rouge palpiter comme du sang au rythme de son cœur. À cet instant, il haït Doucendeur plus que jamais. Ses poings se serrèrent convulsivement et il n'eut plus qu'un souhait, un seul, que le cou fripé du vieil homme soit entre ses mains. Dick et Monica Bowden avaient des lits jumeaux séparés par une table de nuit surmontée d'une jolie lampe imitation Tiffany. Leur chambre était lambrissée de véritables séquoias et les murs agréablement tapissés de livres. De l'autre côté de la pièce, niché entre deux serre-livres en ivoire, des éléphants debout sur leurs pattes de derrière, il y avait une TV Sony toute ronde. Dick regardait Johnny Carson, les écouteurs dans les oreilles, tandis que Monica lisait le dernier Michael Crichton qu'elle venait de recevoir de son club du livre.
« Dick ?»
Elle posa un marque-page, « C'est l'endroit où je me suis endormi », dans le Crichton, et le referma. Sur l'écran de TV, Buddy Hackett venait de liquider tout le monde. Dick souriait.
« Dick ?»
dit-elle plus fort. Il ôta l'écouteur.
« Quoi ? Crois-tu que Todd va bien ?»
Il la regarda un moment en fronçant les sourcils, puis dit en français en secouant la tête « Je ne comprends pas, chérie. » Son mauvais français les faisait souvent rire. Son père lui avait envoyé $200 de plus quand il avait été recalé en français pour prendre des leçons. Il avait trouvé une certaine Monica Darrow en choisissant au hasard parmi les cartes épinglées sur le panneau syndical. Dès Noël, elle portait son épingle de cravate. Et il obtenait un C en français.
Eh bien, il a perdu du poids.
Il a l'air un peu maigre, c'est sûr, reconnut Dick. Il posa l'écouteur sur ses genoux, où il continua d'émettre de minuscules piaillements. Il est en train de grandir, Monica.
Si vite ?
Demanda-t-elle, gênée. Il rit. Si vite, oui. J'ai pris plus de 15 centimètres à l'adolescence, transformant une asperge d'1,65 m en la splendide masse musculaire d'1,82 m que tu as sous les yeux. Ma mère dit qu'à 14 ans, on m'entendait grandir pendant la nuit.
Heureusement que tout n'a pas grandi à la même allure.
Tout dépend de comment on s'en sert.
Tu veux t'en servir ce soir ?
La gaillarde prend de l'audace, répondit Bowden en jetant l'écouteur de l'autre côté de la chambre. Plus tard, alors qu'il glissait dans le sommeil,
« Dick, en plus il fait des mauvais rêves. »«
Des cauchemars ?» marmonna-t-il.
« Des cauchemars. Je l'ai entendu 2 ou 3 fois gémir dans son sommeil quand j'allais dans la salle de bain. Je n'ai pas voulu le réveiller. C'est idiot, mais ma grand-mère disait qu'on peut rendre fou quelqu'un qu'on réveille au milieu d'un cauchemar. »
« C'était la Polac, non ?»«
La Polac, ouais, la Polac. C'est gentil. »«
Tu sais ce que je veux dire. Pourquoi tu ne te sers pas des chiottes à l'étage ?» Il les avait installées lui-même 2 ans avant.
« Tu sais que la chasse d'eau te réveille toujours, »
dit-elle. « Alors ne la tire pas. »«
Dick, c'est dégoûtant. »
Il soupira.
Quelquefois, quand j'entrais dans sa chambre, il transpirait, et les draps étaient humides.
Il sourit dans le noir. Je l'aurais parié.
Qu'est-ce que... Oh !
Elle lui donna une petite gifle.
C'est dégoûtant, ça aussi. En plus, il n'a que 13 ans.
14, le mois prochain. Il n'est pas trop jeune. Un peu précoce, peut-être, mais pas trop jeune.
Quel âge avais-tu ?
14 ou 15, je ne sais plus exactement. Mais je me souviens de m'être réveillé en croyant que j'étais mort et monté au paradis.
Mais tu étais plus vieux que Todd.
Tous ces trucs arrivent plus tôt. Ça doit être le lait ou le fluor. Sais-tu qu'on a mis des distributeurs de serviettes hygiéniques dans tous les dortoirs de filles à l'école que nous avons construite à Jackson Park l'an dernier ? Et c'est une école communale. Aujourd'hui, les élèves de 6e ont en moyenne 10 ans. Et toi, quel âge avais-tu quand ça a commencé ?
Je ne me souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que quand il rêve, Todd n'a pas l'air d'être mort et au paradis.
Tu lui en as parlé ?
Une fois, il y a environ un mois et demi. Tu étais allé jouer au golf avec cet affreux Ernie Jacobs.
Cet affreux Ernie Jacobs va me nommer associé à part entière en 1977, si sa grande jaune de secrétaire ne le tue pas avant à force de baiser. En plus, c'est toujours lui qui paye l'entrée. Qu'est-ce qu'il a répondu ?
Qu'il ne s'en souvenait pas, mais une sorte de d'ombre lui a traversé le visage. Je crois qu'il s'en souvenait, au contraire.
Monica, je ne me souviens pas de toute ma chère jeunesse, mais je me souviens d'une chose, c'est que les rêves érotiques ne sont pas toujours agréables. En fait, ils peuvent être carrément détestables.
Comment ça se fait ?
La culpabilité. Toutes sortes de culpabilités. Une partie vient peut-être de très loin. Quand il a compris que c'était mal de mouiller son lit. Et puis il y a les trucs du sexe. Qui sait ce qui provoque un rêve érotique ? Un plotage en douce dans le bus ? Un coup d'œil sous les jupes d'une fille à l'étude ? Je n'en sais rien. Dans le seul dont je me souvienne vraiment, je sautais du plongeoir à la piscine de l'YMCA, le jour mixte, et je perdais mon maillot en arrivant dans l'eau.
« C'est ça qui t'excitait ? » demanda-t-elle en gloussant.
« Ouais. » Alors si le gosse n'a pas envie de te parler de ses problèmes de quéquette, ne l'y oblige pas.
On a fichtrement fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne traîne pas toutes ces hontes inutiles.
On n'y échappe pas. Il les rapporte de l'école, comme les rhumes qu'il ramassait la première année. Cela vient de ses copains, ou de la façon dont ses professeurs tournent autour de certains sujets. C'est probablement venu aussi de mon père. N'y touche pas pendant la nuit, Todd, ou des poils te pousseront sur les mains et tu deviendras aveugle, et tu te mettras à perdre la mémoire. Et ensuite, ton truc deviendra tout noir et pourrira. Alors fais attention, Todd.
Dick Bowden, ton père n'aurait jamais...
Jamais. Bon Dieu, il l'a fait. Exactement comme ta grand-mère Pollack te racontait que réveiller quelqu'un au milieu d'un cauchemar pouvait le rendre dingue. Il me disait aussi de toujours essuyer le siège des toilettes publiques avant de m'asseoir, sinon j'attraperais les microbes des gens. Je suppose que c'était sa façon de dire syphilis. Je parie que ta grand-mère t'a fait aussi ce coup-là.
Non. « Ma mère, »
dit-elle, un peu absente.
« Et elle m'a dit de toujours tirer la chasse. Voilà pourquoi je vais au rez-de-chaussée. »«
Ce qui me réveille quand même, » marmonna Dick.
« Quoi ?»«
Rien. » Cette fois, il était déjà passé par-dessus la barrière du sommeil quand elle l'appela. « Quoi ?» demanda-t-il, un peu agacé.
« Tu ne crois pas ? Oh, peu importe. Rendors-toi. »«
Non, vas-y, fini. » Je suis réveillé. Je ne crois pas quoi.
Ce vieux bonhomme, Monsieur Denker, tu ne crois pas que Todd le voit trop souvent, non ? Peut-être qu'il... Oh, je ne sais pas. Remplit Todd de tout un tas d'histoires.
L'abomination des abominations. Le jour où l'usine d'Essen n'a pas rempli son quota. Il ricana.
C'était juste une idée,
dit-elle, un peu vexée. Elle se tourna sur le côté dans un froissement de couverture.
« Désolé de t'avoir dérangé. »
Il posa la main sur son épaule nue. « Je vais te dire une chose, baby, » dit-il avant de faire une pause pour réfléchir et peser ses paroles. « Moi aussi, je me suis inquiété pour Todd, quelquefois. Pas pour les mêmes raisons que toi, mais inquiété pareil, ok ?» Elle se tourna à nouveau vers lui.
« Pour quelle chose ?»«
Eh bien, je n'ai pas eu du tout la même enfance que lui. Mon père tenait la boutique. » Tout le monde l'appelait Vic l'épicier. Il avait un livre où il mettait les noms de ceux qui lui devaient de l'argent.
et combien il lui devait. Tu sais comment il l'appelait ?
Non.
Dick parlait rarement de son enfance. Elle croyait que c'était parce qu'il n'avait pas été heureux. Cette fois, elle l'écouta attentivement. Il l'appelait le livre de la main gauche. Il disait que la main droite s'occupait des affaires, mais qu'elle ne devait jamais savoir ce que faisait la main gauche. Il disait que, probablement, si elle le savait, elle prendrait un hachoir pour couper la main gauche.
« Tu ne m'as jamais dit ça ?»«
Oh, je n'aimais pas trop mon vieux quand nous nous sommes mariés. Et à vrai dire, je ne l'aime toujours pas beaucoup la plupart du temps. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il fallait que je porte des pantalons du Secours populaire alors que Madame Zersky pouvait s'acheter un jambon à crédit en racontant toujours la même rengaine, comme quoi son mari se remettrait à travailler dans une semaine. Le seul travail qu'ait jamais eu ce putain d'ivrogne de Bill Mzersky, c'est de se cramponner à sa bouteille de pinard pour qu'elle ne s'envole pas. À l'époque, tout ce que je voulais, c'était me tirer du quartier et ne plus voir mon vieux. Alors j'avais de bonnes notes, et je pratiquais des sports que je n'aimais pas vraiment. Donc j'ai eu une bourse à l'UCLA. Mais je m'arrangeais pour rester à tout prix dans les 10 premiers de la classe, parce qu'à l'époque, le seul livre de la main gauche qui existait était réservé aux GI qui s'étaient battus pendant la guerre. Mon père m'envoyait de l'argent pour les livres, mais la seule fois où je lui ai demandé de l'argent pour autre chose, c'est quand j'ai paniqué parce que j'avais été recalé en français et que je lui ai écrit. Alors je t'ai rencontré. Et plus tard, j'ai appris de M. Alec, au coin de la rue, que mon père avait menacé de saisir sa voiture pour lui faire cracher les $200. Et maintenant je t'ai. Et nous avons Todd. J'ai toujours pensé que c'était un garçon vraiment bien. Et j'ai voulu être sûr qu'il aurait tout ce dont il aurait besoin. Tout ce qui pourrait l'aider à devenir un mec bien. Il y a une vieille rengaine qui me faisait toujours rire, celle du type qui veut que son fils soit mieux que lui. Mais en vieillissant, c'est moins drôle et de plus en plus vrai. Je ne voudrais pas que Todd soit jamais obligé de porter un pantalon du Secours populaire parce qu'une femme d'ivrogne s'achète un jambon à crédit. Tu comprends ?
Oui, bien sûr, je comprends,
dit-elle doucement. Et puis, il y a peut-être 10 ans, juste avant que mon père finisse par être fatigué de se battre contre les types de la rénovation urbaine et prenne sa retraite, il a eu une petite attaque. Il est resté 10 jours à l'hôpital. Et les gens du voisinage, les latinos et les boches, et même les macaques qui sont arrivés dans le coin vers 1955, ils ont payé sa note. Jusqu'au dernier foutu cent. Je n'arrivais pas à y croire. Et ils ont tenu la boutique, en plus. Fiona Castello a fait se relayer 4 ou 5 de ses potes au chômage. Quand mon vieux est revenu, les comptes étaient justes, au cent près.
« Waouh !»
dit-elle d'une voix douce. « Tu sais ce qu'il a dit, mon vieux ? Qu'il avait toujours eu peur de vieillir, d'avoir la trouille et d'avoir mal tout seul. D'avoir allé à l'hôpital et de ne plus pouvoir joindre les deux bouts. De mourir. Il m'a dit qu'après son attaque, il n'avait plus eu peur. Il m'a dit qu'il croyait pouvoir avoir une bonne mort. « Tu veux dire une mort heureuse, papa ?» je lui ai demandé. « Non, » il a dit. « Je ne crois pas qu'on puisse mourir heureux, Dicky. » Il m'a toujours appelé Dicky. Il le fait encore d'ailleurs. Et je crois que c'est encore un truc que je n'arriverai jamais à aimer. Il disait qu'à son avis, personne n'avait une mort heureuse, mais qu'on pouvait avoir une bonne mort. Ça m'a impressionné. Il resta longtemps pensif. Ces derniers 5 ou 6 ans, j'ai pu prendre un peu de distance en pensant à mon vieux. Peut-être parce qu'il est là-bas, à San Remo, qu'il n'est plus dans mes pattes. Je me suis mis à penser que peut-être le livre de la main gauche n'était pas une mauvaise idée. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter pour Todd. Je voulais tout le temps essayer de lui dire qu'il y a pour moi peut-être des choses plus importantes dans la vie que de pouvoir vous emmener un mois à Hawaï, ou d'avoir les moyens de lui acheter des pantalons qui ne sentent pas la naphtaline, comme ceux du Secours populaire. Je ne suis jamais arrivé à lui parler de ce genre de choses, mais je me dis qu'il doit le savoir. Et cela m'enlève un grand poids.
Ces lectures pour M. Denker, tu veux dire ?
Oui, cela ne lui rapporte rien. Denker ne pourrait pas le payer. D'un côté, il y a ce vieux bonhomme, à des milliers de milles de ses parents ou de ses amis encore vivants, un vieux bonhomme qui représente tout ce dont mon père avait peur. Et de l'autre, il y a Todd.
Je n'y avais jamais pensé de cette façon-là.
As-tu remarqué comment réagit Todd quand on lui parle du vieux ?
Il ne dit pas grand-chose.
Bien sûr. Il ne sait plus quoi dire. Il est gêné, comme s'il avait honte de quelque chose. Tout à fait comme mon père quand on voulait le remercier d'avoir fait crédit. Nous sommes la main droite de Todd, c'est tout. Toi et moi et tout le reste. La maison, les vacances de ski à Tahoe, la Thunderbird dans le garage, sa TV en couleur. Tout ça, c'est sa main droite. Et il ne veut pas que nous sachions ce que fait sa main gauche. Donc tu ne crois pas qu'il voit trop ce Denker? Chérie, regarde ses notes. Si elle baissait, je serais le premier à mettre le haut là. Assez comme ça, ça suffit. Ne plonge pas. S'il avait des ennuis, cela se verrait d'abord dans ses notes. Et qu'est-ce qu'elle donne? Aussi bonne que d'habitude, depuis son faux pas. Alors de quoi parlons-nous? Écoute, baby, j'ai une réunion à 9h. Si je ne dors pas un peu, je serai vaseux.
Bien sûr, dors,
dit-elle avec indulgence. Elle l'embrassa légèrement sur l'omoplate quand il se retourna.
Je t'aime.
Je t'aime aussi,
dit-il, bien installé, en fermant les yeux. Tout va bien, Monica, tu t'inquiètes trop.
Je sais bien. Bonne nuit.
Ils s'endormirent.